Bienvenue à l'épisode 5 du podcast de Marisot, la minimaliste. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler de quelque chose d'un peu spécial. En fait, j'ai vu le film 1981 cette semaine et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. On va faire un peu les parallèles de ce qui se passe dans ce film-là et de notre vie aujourd'hui, 40 ans plus tard. Donc, restez avec moi pour notre épisode.
T'as l'impression que ta maison ne te ressemble plus. T'as la sensation d'étouffer dans tes objets perdus. Tu n'es plus bien chez toi, t'as envie de fuir ta demeure. T'as beau soigner ton extérieur, tu craques à l'intérieur. Ton espace est plein d'objets inutiles. Le podcast de Marisot va rendre ta vie plus facile. Marisot, la minimaliste, elle épure ton univers et rend ta vie plus simpliste.
Alors, bonjour à tous et bienvenue au 5e épisode du podcast de Marisot, la minimaliste. Je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un autre épisode. Et vu que c'est l'été puis qu'on est en vacances et tout, j'avais le goût de vous parler d'un sujet un peu plus léger, plus rigolo en fait. C'est que j'ai vu, cette semaine, j'ai vu le film 1981 de Ricardo Troggi. Et je ne connaissais pas du tout ces films-là et ça a été une vraie petite découverte. Pour moi, c'était comme un petit bijou. J'ai tellement ri pendant le film-là. Moi, je suis née en 1982. Donc, vous voyez, j'avais juste un an quand, quand on parle de la période dans laquelle le film est tourné. Et j'ai trouvé ça fou de voir à quel point il y avait des parallèles par rapport à notre vie d'aujourd'hui. Et ce qui m'a le plus marqué, je pense, en fait, c'est que c'est une histoire qui se passe il y a 40 ans, en fait, vraiment exactement 40 ans, vu qu'on est en 2021, et c'est en 1981. Et je me suis dit, aïe aïe, c'est fou, moi j'avais pensé toujours que notre société de consommation était là, mais était plus présente depuis les années 2000, dans les dernières 20 années. Et en fait, en regardant ce film-là, j'ai réalisé que, ben non, finalement, ça fait bien plus longtemps que ça qu'on se retrouve dans une société de consommation où la valorisation, en fait, se met à travers la possession. Et on le voit à travers cet enfant, ben, qui est Ricardo Troggi, parce que dans le fond, c'est un film biographique où il raconte sa période de ses 11 ans à lui. Et c'est lui, d'ailleurs, qui est le narrateur du film, donc il raconte, en fait, sa jeunesse. Et c'est fou parce que, dans le fond, il est un fils d'immigrant italien et ils vivent dans un quartier modeste, mais là, ils déménagent dans le quartier Sainte-Foy à Québec, dans une grosse maison. Et ils changent d'école. Donc là, ils changent d'école, puis déjà, ce petit garçon-là, sa motivation, là, c'est vraiment s'acheter des affaires, OK? Il a le catalogue qui s'appelle « Distribution aux consommateurs ». C'est quelque chose que moi, je n'ai pas connu parce que je ne vivais pas au Québec à cette époque-là. Et j'étais trop petite, d'ailleurs. Mais je pense que pour pas mal de gens ici, ça va avoir une notion qu'ils vont reconnaître. Donc, le « Distribution aux consommateurs », c'était vraiment un catalogue que vous receviez à la maison. Et en fait, vous pouviez commander des choses qui étaient des affaires plus modernes là, et tout, que vous avez accès. C'était un peu l'Amazon, en fait, de l'époque, mais c'était un catalogue. Et ça a l'air que beaucoup d'enfants de cet âge-là là, chérissaient ce catalogue-là et allaient comme entourer les affaires qu'ils voulaient. C'était comme leur objectif. Moi, j'aimerais ça avoir cet objet-là. Moi, j'aimerais avoir ça, cet objet-là. Et c'est fou à quel point, justement, il y avait cette notion de désir, là, que cet enfant-là de 11 ans, Ricardo, c'est une obsession. Tout tourne autour de son catalogue. Il l'amène à l'école. Quand sa prof lui demande de lire un livre, son livre de lecture, c'est le catalogue. Donc, il est vraiment complètement obsédé par ce catalogue-là et par les objets qu'il voudrait pouvoir avoir. Et toute sa dynamique même avec ses nouveaux amis, parce que là, il rentre dans une école où il se rend compte que les gens sont peut-être un petit peu plus aisés que sa famille à lui, qu'ils ont plus de moyens. Et il y a vraiment des images, des choses qui sont vraiment très, très, très drôles, parce que c'est des objets qui maintenant font partie, en fait, de nos vies, puis qu'on ne se rend même plus compte, les fameux kiwis. Nous, on appelle ça un kawé en Suisse, mais en fait, ici, c'est un kiwi. Et là, toute l'école, enfin, la plupart des enfants de sa classe avaient un kiwi, puis notamment une petite gang de trois gars qui avaient le même kiwi rouge. Puis là, il y avait vraiment cette notion d'appartenance. Il voulait absolument, lui aussi, avoir un kiwi rouge pour faire partie de cette petite gang-là. Il voulait pas faire partie de la gang qui avait des chemises carrées carottée ou de la petite gang des nerds. Donc, il voulait absolument que les gars cool qui avaient des kiwis rouges. Donc, c'est de nouveau de voir à quel point, à travers un objet, on s'identifie à des gens aussi. À quel point, justement, le marketing, de nouveau, nous a amené à ça, à se dire, ben, OK, si j'ai le kiwi rouge, je fais partie de la gang. Donc, voyez à quel point ça peut nous amener à voir qui on est, en fait, notre personnalité, surtout, à essayer de la transcrire à travers, en fait, notre code vestimentaire ou les objets qu'on peut avoir. Mais de nouveau, c'est ce qu'on nous amène par le marketing, par la société de consommation, par le fameux catalogue qui nous crée des désirs. Parce qu'on le voit, ce petit garçon-là, là, c'est pas vraiment un besoin, là. Il en a un de manteau. Et puis, il a aussi toutes les autres affaires qu'il voudrait avoir, mais dans le fond, il a toujours ce désir d'avoir plus, d'avoir le truc cool, puis de faire partie de la gang. Donc, c'est vraiment comme ce besoin-là. Et d'ailleurs, à un moment donné, à l'école, il y a un des autres enfants qui a le premier Walkman Sony, là. Donc, on en a tous entendu parler quand on était jeune, le fameux Walkman Sony. On pouvait écouter nos cassettes en les prenant avec nous. Et c'est ça, et là, de coup, ça devient une convoitise pour tout le monde aussi dans l'école. Tout le monde veut cette affaire-là. Donc, c'est vraiment drôle à quel point on a ce besoin aussi de s'intégrer avec les autres, d'être normalisé, d'avoir la même chose que les autres, de ne pas se sentir en décalage. Et c'est ça qui fait un peu ce processus de entre guillemets, que j'appelle maintenant de « voisin gonflable ». C'est-à-dire qu'on est tellement sollicité, on voit tellement ce que les autres ont, qu'on se dit que nous aussi, on est supposé l'avoir. Et que c'est ça que ça crée cette espèce de besoin d'engouement pour combler ses désirs. Parce que dans le fond, comme je vous le disais, c'est pas des besoins, c'est des désirs qu'on a. Et je trouve ça vraiment drôle parce que tout ce film-là tourne vraiment autour de ça, puis je m'y attendais pas du tout. Puis en l'écoutant, j'étais là, aïe aïe, c'est vraiment fou, comme c'est un portrait complet de ce que j'essaie d'enseigner aux gens puis de montrer déjà, et que c'est vraiment déjà quelque chose qui est très ancré au niveau des enfants. Ce garçon-là, il a 11 ans et c'est complètement une obsession pour lui de juste pouvoir avoir des objets qu'ils ont dans le catalogue, à tel point qu'il se fâche avec ses parents, qu'il devient méchant avec ses parents aussi, avec sa mère, qu'il ne se rend pas compte, qu'il devient complètement égoïste, puis qu'il vraiment, c'est que le focus qu'il a est que sur ce maudit catalogue, et que finalement, c'est ça, il n'arrive pas à s'en détacher, et que ça crée plein de conflits avec sa famille, mais aussi avec ses amis. Et ça revient aussi un peu avec cette notion, justement, de pas de caste, mais d'affaires de niveau de vie qu'on a quand on est modeste, quand on est riche et tout ça, qu'on a cette espèce d'image que les gens riches sont forcément plus heureux que les gens pauvres. Et je trouve ça justement un peu triste dans ça parce que le petit garçon, il a vraiment une famille qui est spéciale, qui est drôle, qui sont aimants, qui sont là pour lui, il a une maman qui a tout qu'un caractère, par exemple, et puis ils essayent tout de combler, en fait, ce qu'il veut. Ils lui achètent la plupart de ses affaires. Ils essayent, mais il y en a qui sont bien trop chers, donc ils peuvent pas. Ils font « Regarde, on ne dépensera pas 300$ pour une montre qui fait calculatrice. » C'était une montre Casio à l'époque. Ça a l'air qu'elle était calculatrice aussi. Et que ça, donc là, ils essayent toujours de le ramener à la réalité, que c'est pas si important que ça, ces objets-là, puis tout, puis que c'est ça. Puis là, ils venaient de déménager dans une plus grosse maison, puis que déjà, il y avait beaucoup de frais, et que c'était compliqué pour ça. Donc là, ces petites bébelles, c'était pas si important que ça. Et je trouve que dans ce film-là, il y a des passages qui sont vraiment, vraiment frappants. D'ailleurs, il y en a un dont je vais vous parler un peu, c'est quand il doit à l'école, amener un objet de valeur pour lui. Qu'est-ce que c'est qu'un objet qui a de la valeur pour lui? Donc, tous les enfants, en fait, amènent un objet, puis lui, il sait pas, il cherche chez eux, puis là, son père, il dit, ben écoute, amène le sac de billes, tu sais, que ton cousin t'avait donné, tu sais, c'est le fun, les billes, vous avez joué avec ça, tu sais, c'était... Puis là, lui, il est comme, c'est cheap, les billes, c'est, voyons, c'est niaiseux, je veux pas amener ça à l'école, là, et tout, non, je veux pas amener ça. Donc là, il trouve rien. Finalement, il est dans l'autobus scolaire avec sa sœur, et là, il se rend compte que sa sœur, justement, ben, a un appareil dentaire d'orthodontie, et que ça avait beaucoup de valeur monétaire, parce que ses parents n'arrêtent pas de dire que, justement, c'est l'appareil à coûter tellement cher qu'ils ne peuvent pas acheter d'autres affaires, puis qu'ils n'ont pas l'argent pour un micro-ondes ou pour d'autres choses. Et que là, il se dit, ah ben oui, ça, c'est un objet de valeur. Donc là, il demande à sa sœur, en fait, de lui prêter son appareil dentaire. Donc c'est ça qu'il va présenter devant la classe. Puis là, il est devant sa classe, puis la prof, il demande « OK, mais pourquoi, c'est quoi l'objet que t'as amené? » Puis l'objet, ben c'est ça, il montre le palais, là, l'espèce d'appareil de ton ancien de sa sœur. Puis il dit, ben ça, ça a de la valeur parce que ça vaut 9 000 $, ça a de l'air. Mes parents ont dit ça, puis que là, là, on peut pas se payer d'autres affaires, donc ça a vraiment de la valeur. Puis là, la prof, elle dit, OK, mais elle dit, en quoi cet objet-là a de la valeur pour toi si on enlève le côté monétaire? Puis là, il sait pas trop quoi dire. Là. Il est comme, ben là, c'est parce que c'est ça, ça vaut de l'argent, puis c'est cher, puis ça a de la valeur. Donc, c'est pour ça qu'il avait tout misé la valeur, en fait, d'un objet sur l'argent. Puis c'est souvent ça qu'on fait aussi, que moi, je vois chez les gens, quand ils sont pas capables de se départir d'un objet, c'est parce qu'ils disent, oui, mais ça vaut tant. J'ai mis 100 $ sur l'objet, donc ça a une valeur. Donc, on va garder l'objet, même s'il apporte rien. Et là, entre guillemets, l'appareil dentaire de sa sœur là n'a aucune valeur pour lui. Il ne peut pas le mettre dans sa bouche, il ne peut pas l'utiliser. Ça ne lui apporte rien à lui. Ça n'a aucune valeur pour lui. Mais juste le fait que ça avait une valeur monétaire de 9 000 $, eh bien là, c'était comme ça a de la valeur. Donc, vous voyez à quel point on peut avoir une image un peu distorsionnée de la valeur d'un objet. Parce qu'on la mise tout le temps sur l'argent, mais en fait, c'est pas ça l'important d'un objet, c'est est-ce qu'il nous apporte quelque chose réellement. Donc ça, je trouve que c'était un des passages vraiment sweet. Puis en plus, pauvre petit, il est vraiment comme super frustré après parce que la petite fille sur laquelle il trippe, qu'il trouve tellement cute et tout, puis qu'il voudrait impressionner, elle va en avant pour présenter son objet. Puis qu'est-ce qu'elle présente? Une bille. Une bille, puis que c'est la bille que son cousin lui a donnée, qui est décédée, qui avait le cancer. Elle a toute une histoire. Et là, la prof est comme, voilà, ça, c'est vraiment l'essentiel. L'essentiel, elle dit d'ailleurs la phrase de Saint-Exupéry, que l'essentiel n'est pas visible aux yeux. Donc, dans le fond, elle montre que là, ce qui est essentiel, c'est que la petite bille ridicule qui valait rien, ben ça avait une grosse valeur pour elle parce que ça représentait la relation qu'elle avait eue avec son cousin. Donc, vous voyez, c'est là, il est fâché, il se dit, voyons, j'aurais donc dû amener le sac de billes comme mon père m'avait dit à matin. Donc, ça, c'était un des passages que je trouvais vraiment croustillant et le fun de ce film-là. Il y en a un autre qui est un peu plus dur émotionnellement, c'est quand il est au centre commercial avec ses amis et que là, il se promène puis que finalement, il tombe à l'endroit où son père travaille et son père joue de l'accordéon dans le centre commercial. Et là, il le voit, son père lui fait signe de la tête comme pour lui dire allô et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fige, il tourne les talons et il part parce qu'il a honte. Il a honte que son père est juste un Italien immigrant qui a une petite job comme poche. Il veut pas que ses amis sachent que son père, justement, a pas une grosse job, puis tout ça. Parce que, de nouveau, c'est l'image, c'est qu'est-ce qu'il veut représenter au niveau des autres. Puis c'est tout est vraiment basé sur cette notion de valeur de l'argent, que tout vraiment va... que si ça n'a pas une valeur monétaire, que s'il n'a pas une job hot, son père, puis que s'ils n'ont pas d'argent et tout ça, ben il ne sera pas une bonne personne, il ne sera pas une personne importante. Lui, il a vraiment cette image-là. Et en plus, il a une image très faussée de la valeur de l'argent parce que ses parents n'arrêtent pas de dire, ben si tu veux te payer des affaires, ben travaille, on va te trouver une job, puis là, tu pourras t'acheter tes affaires, mais il ne veut rien savoir de travailler. Lui, il ne voit pas cette notion-là qu'aussi que pour avoir de l'argent, ben il faut travailler un peu quand même. On ne peut pas juste s'attendre à ce que l'argent tombe du ciel tout seul. Et ça, ce bout-là, on voit à quel point, justement, cette consommation cette valorisation qu'il a besoin, cet enfant-là, autour de ce niveau d'argent, de montrer qu'il est riche, alors qu'ils ne le sont pas, est tellement importante et vient vraiment gruger complètement la dynamique familiale que le soir, là, le père, il est vraiment comme, il est fâché, il est blessé. Puis là, il va aller s'excuser justement auprès de sa mère et de son père et que ça devient vraiment, c'est très émotif à ce moment-là, mais ils sont tous comme mal parce que justement, tout tourne juste autour de leur statut social et de leur niveau d'argent qu'ils ont en fait. Et c'est là où on revoit en fait que c'est pas si important et que cette famille-là, même à ça, que même ses parents avaient embarqué dans ça un peu aussi parce qu'ils sont partis d'un quartier, ils sont allés acheter une maison, dans le fond, qu'ils ne peuvent pas se permettre, qui est trop dispendieuse. Et on voit à la fin du film que finalement, son père, il dit, ben de toute façon, là, ça va pas bien, puis on va revendre la maison. Puis là, il dit, ben là, voyons, on vient juste d'arriver. Le petit garçon, là, Ricardo, il dit, ben voyons, on vient juste d'arriver, là, on va pas vendre la maison. Puis il dit, ben oui, non, parce qu'on peut pas, on n'a pas les moyens d'avoir cette maison-là, là, on peut pas payer l'hypothèque. Donc finalement, c'est ça, c'est toute cette espèce d'image que cette famille-là avait au départ aussi, là, de déménager dans un quartier qui étaient plus favorisés, qui voulaient comme un peu se sortir de leur situation qui allait bien dans le fond, mais qui avaient ce besoin d'essayer de se valoriser en disant « ben oui, on va aller dans un coin qui est un peu plus renommé, mettons, et qui a plus d'argent », entre guillemets. Et que ça a tout un peu grugé, ça a été dur, très émotionnellement et sur la famille, et qu'on s'est rendu compte que finalement, c'est pas ça qui est vraiment important. Et à la fin du film aussi, les petits garçons, là, parce qu'on se rend compte qu'à cet âge-là, quand on a 11 ans, on n'arrête pas de raconter des menteries, là, donc tous les petits garçons qui s'étaient inventés des belles vies aussi, puis toute la petite gang de kiwis rouges, là, ben finalement, il y en a un que son père est en prison, l'autre, il avait dit qu'il avait justement frenché la petite fille que le petit Ricardo convoitait, mais finalement, c'était pas vrai non plus, que tout le monde s'inventait, en fait, des histoires pour avoir l'air mieux, plus que ce qu'ils étaient. Mais c'est normal, parce qu'à cet âge-là, on n'a pas encore cette maturité-là de se dire, ben non, je suis assez, puis je sais qui je suis, on se découvre et tout. Mais c'est drôle de voir à la fin que, justement, ils étaient tous en train de mentir puis de s'inventer des histoires pour avoir l'air cool, puis que ça changeait pas grand-chose, en fait, au bout du compte, puis qu'ils étaient quand même des bons amis, puis c'était ça qui était important. Et le petit Ricardo, d'ailleurs, qui avait volé la bille, parce qu'il était comme jaloux un peu de cette bille-là. Il l'a volé sur le pupitre de la prof, va la ramener à sa petite amie, puis pour se rendre compte qu'en fait, son père la prend, la bille, puis la jette dans une espèce de vase où il y a 25 000 billes de la même taille, puis il dit, elle traîne tout le temps partout, pour se rendre compte que même la petite fille qui avait raconté la belle histoire que la bille, c'était son cousin qui lui avait donné, bien, c'était aussi une menterie. Donc, tout son monde un peu s'écroule à ce niveau-là par rapport à toutes ces affaires de valeur et tout, puis je pense que ça lui a donné une bonne leçon sur c'est quoi vraiment la bonne valeur. Et le film se finit aussi sur une note vraiment cute parce qu'il se rend compte que justement tout ça, c'est pas important. Et sa sœur qui avait un chat qu'il a perdu tout au long du film, bien le chat a réapparu. Puis finalement, il pensait que c'était un matou, mais c'était une petite minette qui a eu finalement des bébés. Et là, on voit toute la famille qui est dans la cave et puis qui est toute « oh, c'est tellement cute » parce que ce qui est vraiment important, bien c'était ça, c'était d'être en gang puis d'avoir des beaux moments ensemble. Puis que la vie, dans le fond, c'est ça qui est important puis que c'est pas toutes les affaires qui pouvaient s'acheter. Donc voilà, j'ai découvert ce film-là cette semaine. Pour moi, ça a été vraiment un bonbon. Puis je me suis dit, aïe aïe, c'est fou parce que c'était en 1981. T'sais, moi, je vais avoir 39 ans cette année. C'est ça, c'est comme j'étais toute petite puis j'avais pas cette notion-là, en fait, que le mode de consommation, la surconsommation existait déjà depuis très, très, très longtemps. Pour moi, c'était quelque chose qui était quand même plus récent que ça. Mais là, d'avoir vu ce film-là, j'avais fait comme, ben oui, c'est vrai que ça fait déjà depuis bien plus longtemps que ça. Moi, j'y étais pas tellement confrontée parce que moi aussi, je viens d'une famille qui est très modeste. Donc, on a toujours eu cet exemple de comme, ben on n'a pas beaucoup de choses, mais on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux. Et je me souviendrai toujours, pour la valeur de l'argent, un exercice que ma mère avait fait une fois et que je lui en suis extrêmement reconnaissante, c'est qu'un jour, on se chialait parce qu'on ne pouvait pas partir en vacances. Puis parce que je ne pouvais pas avoir le beau suit d'affaires fluo, c'était l'époque fluo, là, puis on voulait tout avoir un suit de ski fluo, puis ma mère, elle n'avait pas les moyens qu'on nous payait ça. Et un jour, elle a fait « Ah oui, vous chialez, vous n'êtes pas contente, là, vous n'aimez pas ça, qu'on n'a pas assez d'affaires, puis qu'on ne fait pas ci, puis qu'on ne part pas en vacances. » Puis elle dit « Il n'y a pas de problème, je vais vous expliquer comment ça marche. » Puis ce qu'elle avait fait à l'époque, elle avait été chercher, en fait, le salaire au complet de mon père, parce que c'était mon père qui travaillait, ma mère était mère au foyer. Puis elle nous a apporté le salaire au complet, donc elle a mis la pile d'argent au milieu de la table. Elle a dit « Ça, c'est ce que papa, il gagne en un mois. » Elle disait, mais ça, puis on était comme, oh, waouh, c'est beaucoup d'argent, vous voyez la petite pile. Puis on était comme, wow, il devait gagner, je pense, environ 4 500 francs suisses à l'époque par mois, ce qui n'est pas énorme, hein, le taux de change et tout, vous verrez, là, c'est pas tant que ça. Et surtout que le coût de la vie en Suisse est très, très cher. Et là, on était là, waouh, on en a bien de l'argent. Puis elle a dit, ah oui, hein? Elle dit, mais là, vous aimez ça, hein, qu'on fait des soupers, puis qu'on mange bien, puis tout ça. Elle dit, bien, tout ça, là, elle prenait sur le dessus de la pile l'argent pour l'épicerie. Elle le mettait au coin de la table. Elle dit, ça, c'est l'épicerie. Elle mettait des petits post-it, là. Puis elle dit, OK, puis ça, c'est l'auto. Vous aimez ça que maman vous reconduise à telle place pour faire des affaires? Bien, ça, c'est pour l'auto. Là, après ça, c'était pour justement les vêtements, pour l'entretien de la maison. Donc là, on voyait la pile du milieu, là, qui devenait de plus en plus petite. Puis à la fin, je pense qu'il restait un 100$ dans le milieu. Puis elle dit, là, elle prend le 100$, puis elle dit, là, bien ça, c'est ce qui reste au cas où qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose là, qui brise ou qui n'est pas prévu dans toute notre logistique, c'est juste ça qui reste. Alors, elle dit, ben oui. Elle dit, je peux pas vous payer un beau suit fluo, puis je peux pas non plus vous payer des vacances à l'autre bout du monde. Elle dit, mais c'est correct. Elle dit, si vous voulez qu'on le fasse, on va couper la télé, on va couper le char, on va couper la bonne bouffe. Puis là, on va avoir de l'argent, puis on pourra partir en vacances une fois par année. Elle dit, est-ce que c'est ça que vous voulez faire? Puis là, ma soeur et moi, on s'est regardés, puis on était comme, ben non, là, on veut pas se priver de tout le reste qu'on avait juste pour partir une semaine en vacances par année. Donc, ça nous a permis de voir la valeur de l'argent parce que souvent, et encore plus, je pense, dans notre époque maintenant où l'argent est sur des cartes, qu'on voit même plus l'argent physiquement en billets, on perd la notion de c'est quoi la valeur de l'argent et qu'est-ce qui est vraiment important. Nous, là, notre vie au quotidien était beaucoup plus importante que de partir une semaine en vacances. Et que parce que toutes les autres semaines de l'année, les autres 365 jours, on avait le goût d'avoir du fun, de pouvoir profiter de la vie au quotidien. Et moi, c'est cette leçon-là que j'ai apprise là, ce jour-là, puis j'en serais toujours reconnaissante à ma mère, où elle m'a fait reconnaître vraiment c'était quoi la valeur de l'argent, c'est quoi que coûtait la vie. Puis la vie coûte cher, oui, mais c'est à nous de choisir pourquoi on veut dépenser. Et c'est ça qu'il faut simplement décider. Alors oui, je vois des gens qui, justement, veulent tellement s'acheter des choses, le fameux catalogue là, de distribution consommateur, qu'on a le goût de s'acheter des affaires puis qu'on pense qu'on va être bien plus heureux avec ces affaires-là. Mais rappelez-vous que quand même Ricardo, le plus beau moment qu'il a en fait avec sa famille de tout ce film-là, c'est quand ils ont retrouvé le chat, qu'ils sont tous ensemble à gagner à voir les petits bébés chats ensemble. Donc c'est ça, c'est vraiment de vous ramener à ces valeurs-là, de se dire c'est quoi qui est vraiment important dans ma vie? C'est-tu les humains qui sont autour de moi ou c'est les objets qui sont autour de moi? Donc voilà, je vous laisse sur cette petite réflexion-là. Et si vous n'avez pas vu ce film-là, je vous le conseille sérieusement, là, rien que pour voir aussi les décors, les affaires, de retomber dans les années 80. C'est un vrai petit bijou. Donc je vous le recommande. Il est actuellement sur Netflix, donc c'est facile d'y accéder. Et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis au prochain épisode.
C'est le chaos dans ton organisation résidentielle. T'es enseveli, englouti de matériel non essentiel. Ça te prend un processus de désencombrement. L'approche de Marisot est compréhensive sans jugement. Ton espace est plein d'objets inutiles. Les conseils de Marisot vont rendre ta vie plus facile. Marisot, la minimaliste, elle épure ton univers et rend ta vie plus simpliste. Marisot minimaliste.